France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Nous sommes le samedi 6 mars. Félix Levaché est à la réalisation. Youtube Diego Aclopez et Emmanuel Rose à la technique. Soyez les bienvenus sur France Musique. Musique Matin, le samedi, voici le menu du jour. À 7h45, la danseuse et chorégraphe Brigitte Lefebvre sera avec nous. Nous évoquerons l'immense danseur Patrick Dupont, dont nous avons appris la disparition hier. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin évoquera le chant choral en milieu hospitalier, au bénéfice des malades et des soignants. À 8h15, notre reportage. Sophia Anastasio nous donnera des nouvelles de l'association Unisson, qui était présente à la manifestation organisée jeudi dernier, Place de la République, à Paris, en soutien au monde de la culture. À 8h30, notre invitée sera la pianiste Vanessa Wagner, femme et artiste engagée quant à la question écologique. Et puis à 8h50, notre rendez-vous avec Christophe Chassol, qui nous parlera d'une formidable chanson américaine signée Aaron Copland, son titre Zion's Walls. Très bon réveil à notre écoute. Thank you. Extrait de ce disque Mad Lover, paru chez Alpha, enregistré par Théotime Langlois de Swart et Thomas Dunford, ici A New Division Upon the Ground Bass of John Come and Kiss Me, œuvre inspirée par ce chant populaire élisabétain, tout simplement, John Come Kiss Me Now. Thomas Dunford, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire, puisqu'il fête ses 33 ans aujourd'hui, samedi 6 mars. Autre artiste sous le feu des projecteurs ce week-end, c'est la pianiste Célimène Daudet, qui fait paraître un nouvel album, Haïti mon amour, chez Nomad Music. Elle nous fait découvrir des compositeurs haïtiens de la fin du 19e et du 20e siècle. Et parmi eux, Ludovic Lamorte, né en 1882, disparu en 1953. Il était surnommé le Chopin noir dans les Caraïbes. Voici l'une de ses danzas charmeuses, interprétée donc par Célimène Daudet. Thank you. Célimène Daudet au piano ici pour cette Danza numéro 3 de Ludovic Lamorte. Un extrait de ce disque, Haïti mon amour, paru chez Nomade Music. Célimène Daudet que nous entendrons tout à l'heure sur France Musique à 16h dans l'émission Génération France Musique le live. Et puis demain à 17h à l'occasion de ce concert diffusé en streaming sur la chaîne YouTube du musée du Quai Branly. Et c'est gratuit. Il est 7h45 sur France Musique.
France Musique.
Musique.
Vous allez l'adorer.
L'adorer.
C'est dans ma vie, ça devait être écrit avant que je sois né, mais je suis né pour vivre de la danse et je peux pas m'en passer.
Êtes-vous surpris d'avoir obtenu le Grand Prix de Varna ?
Ah très, oui.
Pourquoi ?
Quand il y a un danseur russe qui a un prix, qui obtient une médaille d'or à un concours, les gens ne sont pas très étonnés, mais là, un Français, un Dupont... C'est quand même assez extraordinaire.
Quels sont vos projets maintenant, Patrick ?
Mes projets, c'est danser, beaucoup danser.
J'ai toujours eu envie de bouger. Déjà, j'étais le genre de bébé qu'on met sur une table avec de la musique et ça fait un spectacle en soi. Et donc, j'ai toujours eu une énergie à dépenser, mais j'ai toujours adoré la musique. Je l'adore encore maintenant. Mais c'est à 7 ans et demi, 8 ans, quand j'ai découvert un cours de danse, complètement par hasard, après avoir essayé le judo, après avoir essayé... Le foot, je faisais les pieds au mur. J'étais goal et je faisais les pieds au mur dans mes goals, ce qui n'était pas très sympa pour l'équipe. Donc après avoir essayé pas mal de sports, je suis tombé par hasard sur un cours de danse dans un préau d'école et j'ai demandé à ma mère si on pouvait vivre de ça. Elle m'a dit oui, si on est le meilleur. Et donc j'ai dit c'est très bien, c'est ça que je veux faire.
La voix de Patrick Dupont en 1976 sur TF1 alors qu'il venait de remporter le Grand Prix du Festival International de la Danse de Varna. Et puis ici en 1989 sur France 3, interrogé par Henri Chapier, le danseur étoile Patrick Dupont dont nous avons appris hier la disparition à l'âge de 61 ans. La danseuse et chorégraphe Brigitte Lefèvre est avec nous ce matin. Bonjour Brigitte Lefèvre.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour évoquer ce grand artiste. Que ressentez-vous à l'écoute de ces mots, de cette voix ?
Beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Ça a été un coup de tonnerre, franchement, d'apprendre sa disparition. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je sais qu'il était heureux, je crois, avec sa compagne Leïla. C'était un apaisement pour lui et pour nous. Et quand j'entends ça, je revois sa vie, quoi. Je revois sa vie de danseur. Moi, je l'ai connu, je suis plus âgé que lui. Je le revois encore petit à l'école de danse. Je repense à Claude Bessy, qu'il aimait beaucoup. Et puis, cet appétit qu'il avait de la vie, de la danse, il en parle très, très bien. Il savait parler de son métier, il savait parler de lui. Et voilà, c'est quelqu'un qui est unique, je veux dire. C'est peut-être pas un exemple, mais c'est une lumière je crois que ça s'éteindra pas, d'ailleurs, grâce à ces hommages qui sont rendus. Tout le monde peut le faire d'une manière différente, d'ailleurs.
Il avait effectivement intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris à l'âge de 10 ans, en 1969. Il avait ensuite été nommé étoile en 80, avant d'occuper les fonctions de directeur de la danse entre 1990 et 1995. Est-ce que c'était, cela dit, Brigitte Lefèvre, quelqu'un d'inspirant pour les plus jeunes danseurs ?
Ah ben sûrement, beaucoup en parlent, surtout François Allu, qui est premier danseur à accompagner, il en parle très bien. Et je crois qu'il en parle aussi pas dans tout ce que peut représenter Patrick. Patrick, c'est pas que le rebelle, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui a un appétit de vie extraordinaire, qui veut sortir le soir, qui veut pouvoir faire du cinéma, il en a d'ailleurs fait, il veut tout. Alors ça crée des contradictions parfois, mais il a cette espèce de force en lui, de colonne vertébrale, et ça, c'est tellement touchant d'entendre parler comme ça de son métier si jeune et avec tant de clairvoyance aussi par rapport à ce qu'il veut faire.
Vous avez été vous-même, Brigitte Lefèvre, directrice de la danse de l'Opéra de Paris entre 1995 et 2014. Vous avez pris en quelque sorte la suite de Patrick Dupont. Que vous a-t-il
oui,
dit
je lui ai succédé, tout
à ce moment-là? Que vous a-t-il dit? Qu'a-t-il peut-être aussi apporté à l'Opéra de Paris?
Il a apporté sa jeunesse, il a apporté aussi le fait qu'il est très aimé, il était très aimé par ses camarades. Moi j'ai vu de très beaux témoignages sur les réseaux sociaux de Manuel Legris, Kader Bellarbi, enfin, il était très aimé, il agaçait parfois, évidemment, comme tous les grandes personnalités comme ça, mais il a apporté ça, surtout, il succédait, vous savez, chaque directeur, c'est quelque chose aussi, chaque directeur quand il s'en va, Il y a des choses qu'on aimait moins. Quelqu'un qui arrive, on a beaucoup d'aspirations. Et puis après, la vie reprend. Moi, c'était compliqué pour moi de lui succéder parce qu'il n'est pas parti de gaieté de cœur. Et en même temps, on sentait bien qu'il avait envie encore d'autre chose, si vous voulez. Il était déjà en quête de sa propre vie et être responsable comme ça de toute une troupe. Il en avait le désir. Il en avait sans doute la capacité, mais il avait envie aussi d'autre chose, c'est clair, et ça créait parfois des contradictions.
Un artiste débordant de liberté, de force, hein, vous nous le dites ce matin, Brigitte Lefèvre. Au cours de sa carrière, il aura aussi collaboré avec de très grands noms de la danse. Hein, je pense à Maurice Béjart, John Lemierre, Rodolphe Nourieff. Quels sont les rôles qui auront marqué sa carrière ?
Oh là là, c'est énorme. Enfin, Maurice déjà l'aimait beaucoup et très très longtemps, Maurice l'a aimé. Je veux dire, il déclenchait, moi je l'ai ressenti d'ailleurs, presque quelque chose de paternant, maternant envers lui, parce qu'il était touchant. Et en même temps, il n'avait pas forcément besoin de mentor. Hein. Mais Maurice lui a fait faire tous ses rôles aussi, très inspiré du Japon. Et puis, il a, je me rappelle de lui, dans Don Quichotte, c'est un coup de soleil qui est rentré en scène. On ne peut pas imaginer, enfin si, ceux qui l'ont vu, ils sont nombreux, l'empathie qu'il avait auprès du public. Et même maintenant, il faisait des émissions de télé, bon, moi je regarde parce que c'était lui, en fait. Et la manière dont il parle, à la fois plus sérieux qu'avant, d'une certaine manière, et en même temps, toujours cette malice qu'il a derrière lui. Et les rôles, oui, Don Quichotte, il y a eu Roméo et Juliette, il a travaillé avec Albin Allais, il était magnifique. Il était tellement dansant, finalement, qu'il pouvait danser différents rôles, si vous voulez, différentes façons. Il était très drôle aussi. Et en scène, il savait aussi apporter cette espèce d'humour qui est la marque des grands interprètes aussi. Hein. Pas facile d'être humoristique en dansant si bien.
On est bien d'accord. Merci beaucoup Brigitte Lefèvre d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer cette immense artiste. À très bientôt sur France Musique. Et puis on écoute un bout de Don Quichotte que vous aviez envie d'entendre aussi vous, Brigitte Lefèvre. Merci beaucoup. le début de ce célèbre Pas de deux, extrait du Don Quichotte, ici interprété par Naïden Todorov et l'orchestre de l'Opéra de Sofia pour, eh bien, à l'occasion de cet hommage rendu donc au danseur étoile Patrick Dupont ce matin sur France Musique. Le compositeur et bandoneoniste Astor Piazzolla aurait fêté ses 100 ans le 11 mars prochain. France Musique lui rend donc hommage en lui dédiant une partie de ses programmes le jour de son anniversaire, ainsi que le week-end prochain, au programme des invités, des émissions spéciales, des archives, des concerts. Pour fêter ça, je vous offre ce matin ce disque Tango Piazzolla, enregistré par l'accordéoniste Pascal Contet, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et Paul Meyer, disque paru chez Aparté. Les musiciens rendent hommage au grand titre du tango à travers un ensemble d'arrangements contemporains que complètent deux créations originales. On y entend Astor Piazzolla, mais aussi d'autres grands maîtres qui ont contribué à forger le tango. Pour tenter votre chance, vous connaissez le principe. Rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur Contactez-nous, vous nous envoyez vos coordonnées et la bonne réponse à la question suivante. Quelle est la nationalité d'Astor Piazzolla ? Était-il belge, argentin ou haïtien ? Eh bien, votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
France Musique, partenaire d'Opéra Magazine. À la une du numéro de mars, Pablo Heras Casado. Principal chef invité du Théâtre Real, il dirige à Madrid une reprise de Siegfried dans la mise en scène de Robert Carsen. Le chef d'orchestre prépare déjà sa prochaine direction du couronnement de Poppée prévu au printemps à l'Opéra d'État de Vienne. À retrouver dans Samedi à l'Opéra de Judith Chen, le samedi à 20h sur France Musique, l'Opéra, comme si vous y étiez.
Tempérament. La collection de l'orgue et de ses musiques présente L'art de la transcription. Un nouveau disque de Vincent Genvrin, enregistré sur l'orgue de l'Auditorium de Radio France. Un disque de la collection Tempérament, en partenariat avec France Musique. France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Merci d'être avec nous ce matin, il est 8h sur France Musique.
Nous allons vous conter l'histoire.
La chronique Battement de cœur, c'est tous les samedis avec Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
L'idée d'évoquer le chant choral en milieu hospitalier vous est venue d'un reportage vidéo consacré à la chorale de l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis.
Oui, j'ai été bouleversé par ce reportage sur la chorale de soignants qui se réunit régulièrement dans cet hôpital francilien en grande tension. Et sur Facebook, j'ai trouvé, tout à fait par hasard, le travail de Myriam Krivine dans cet hôpital, qui est chanteuse et chef de chœur. Et les témoignages de quelques-uns des choristes sont extraordinaires. En voici un court extrait musical pris sur le vif.
Et sous quelle forme le chant choral existe-t-il à l'hôpital ?
Alors en fait, il existe de multiples façons. Tout d'abord, il y a de nombreuses chorales amateurs ou professionnelles et des nombreux chœurs d'enfants aussi qui se produisent ponctuellement en milieu hospitalier. Mais par ailleurs, il y a aussi des chœurs constitués rassemblant toutes les catégories de personnel hospitalier. Il existe ainsi un orchestre et un chœur à l'APHP. Mais la pandémie a aussi incité différents groupes de soignants du monde entier à pratiquer en ligne le chant choral. Ici, un chœur de plus de 60 médecins de la ville de Cagliari, au Canada, qui chante un extrait de Coldplay. Et pour l'anecdote, en 2019, le personnel de l'hôpital de Bayonne, en grève, exprime ses revendications pour davantage de moyens, et ils le font en chanson.
Eh bien, c'est pas si mal vocalement, Marc-Olivier. Et dans les universités de médecine, la pratique chorale est-elle développée ?
Oui, comme vous savez, il y a de toute façon beaucoup de chœurs universitaires en France et à l'étranger, mais il y a aussi des chœurs spécifiquement constitués d'étudiants en médecine. Il y a par exemple un orchestre et un chœur européen des étudiants en médecine, l'EMSOC. Mais part-on retrouver un chœur d'étudiants en médecine tout à fait singulier à l'université de Kingston en Jamaïque ?
Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique. On vous retrouve eh bien en podcast sur francemusique.fr et puis la semaine prochaine bien sûr ici dans cette émission.
Avec joie Saskia, bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
valse de la Belle au bois dormant de Tchaïkovski à quatre mains ici dans cette transcription signée Sergueï Rachmaninov, Marie Kodama et Momo Kodama au piano. Momo Kodama qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire Momo. Allez, un petit mot à 8h08 sur ce spectacle. J'avais promis de vous en reparler. Room with a View de l'artiste de musique électronique Rhône qui était notre invité il y a quelques semaines sur France Musique. Eh bien, son spectacle Room with a View, créé à l'occasion d'une carte blanche qui lui était offerte par le Théâtre du Châtelet et dans lequel 20 danseurs dansent face à l'effondrement écologique annoncé, une œuvre qui suggère également des futurs possibles, hein, je vous rassure. Eh bien, cette création faite en collaboration avec le collectif La Horde et le Ballet National de Marseille sera diffusée ce soir à 21h sur Culture Box. Soyez donc curieux. Autre rendez-vous ce soir à 20h sur France Musique cette fois, avec la diffusion de l'opéra Salomé de Richard Strauss, enregistré à la Scala de Milan, soirée présentée par Judith Chen à ne pas manquer. Ce portrait de femme brûlant, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de notre temps, dira Mahler. Nouvelle production enregistrée le 20 février dernier, il y a quelques jours à peine au théâtre de la Scala de Milan, avec Elena Stikina dans le rôle titre et Ricardo Chailly à la direction. C'est donc le programme de votre soirée opéra ce soir dès 20h sur France Musique.
Thank you.
Ricardo Chailly à la tête de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, ici pour cet Allegro Giocoso, troisième mouvement de la quatrième symphonie de Johannes Brahms, sur France Musique à 8h15. Et c'est l'heure de notre reportage. Jeudi dernier, la CGT Spectacle organisait des manifestations dans toute la France en soutien à la culture, un an jour pour jour après la fermeture des salles de spectacle. Plusieurs organisations ont répondu à l'appel, comme le collectif Unisson, qui regroupe chanteuses et chanteurs lyriques. Sophia Anastasio était à leur côté à Paris, place de la République.
Un an sans spectacle, un an sans danse. Sans théâtre, sans clown, sans marionnettes, sans chansons, sans cirque, sans musique, un an sans public. Il y a urgence.
Place de la République, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour commémorer un bien triste anniversaire, les un an des premières mesures de fermeture des lieux de spectacle. Parmi eux et entre les pancartes « Misère de la culture », des chanteurs et chanteuses lyriques étaient présents, comme Julie Fuchs, tout juste sacrée chanteuse lyrique de l'année par les Victoires de la musique classique.
Moi, je suis là parce que j'estime que c'est mon devoir de soutenir ma communauté d'artistes. Je suis chanteuse lyrique, mais il y a énormément de métiers liés au nôtre. Et je suis surtout là pour apporter ma présence aux jeunes chanteurs qui débutent dans le métier, qui viennent juste de finir leurs études, et pour qui c'est quand même une catastrophe, tout ce qui se passe. Donc on est là et on a très envie de travailler tous.
À ses côtés, la mezzo-soprano Marie-Andrée Bouchard-Lesueur fait partie de ces jeunes artistes en début de carrière. Elle nous fait part de ses inquiétudes.
En tant qu'artiste en début de carrière, c'est important pour moi aussi d'être là parce que c'est notre futur. Et encore, j'ai de la chance parce que je suis à l'Académie de l'Opéra de Paris et que j'ai eu la chance d'avoir cette structure pour m'accompagner pendant cette année de crise. Mais je pense à tous mes collègues qui étaient en passe d'avoir l'intermittence l'année où il y a eu confinement, où pour le coup l'année blanche ne fonctionne pas et se retrouvent sans rien, avec des contrats annulés. Et alors c'est encore plus difficile de trouver du travail dans cette période où il y a très peu d'auditions. Forcément, on va faire appel à des artistes qu'on connaît déjà et pas forcément à des nouveaux artistes qui cherchent à se faire connaître. Alors c'est aussi important pour de les représenter aussi pour moi.
Julie Fuchs et Marie-Andrée Bouchard-Lesueur sont venues avec le collectif Unisson qui regroupe et représente les artistes lyriques pour apporter soutien, conseils et solidarité. Le ténor Stanislas de Barbérac en est le porte-parole.
Ce qu'on réclame, c'est surtout d'avoir un calendrier. C'est surtout ça qui est très frustrant pour nous parce qu'on a vécu la réouverture avec les demi-jauges, avec des protocoles sanitaires qui étaient efficaces. Ça fonctionnait, ça permettait aussi aux employeurs et aux salles de voir un peu le bout du tunnel. Alors voilà, on nous l'a promis il y a quelques semaines, on y est. Et il faut avoir un calendrier parce que c'est très lourd mécaniquement pour les salles d'ouvrir, de remettre les gens en répétition, de réinstaller des décors, tout ça, c'est très compliqué. Donc on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc je pense que d'un point de vue sanitaire et technique, c'est possible. Il faut juste s'en donner les moyens.
Jour 1, on disait que c'était bien, qu'on n'avait pas d'autre choix que de rester chez soi. Jour 4, je me fais encore des pâtes. Pour changer des spaghettis, j'ai fait des linguinis.
Sur une scène de la CGT Spectacle, représentants du monde du cinéma, d'étudiants ou encore des arts vivants ont enchaîné les prises de parole. Il y avait des chansons aussi, comme celle-ci, qui rappelle le premier confinement. Une période durant laquelle Julie Fuchs ne s'attendait pas du tout à ce que la culture s'arrête aussi longtemps.
Non mais en mars, moi j'avais des collègues qui me disaient « Mais non, mais tu vas voir, en septembre, ça sera pas ouvert. » Je dis « Mais n'importe quoi, en septembre, ça sera ouvert. » Puis après c'était janvier, je dis « Mais n'importe quoi, en janvier, ça sera ouvert. » Non, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on y croit, on se dit on va le virus va faiblir, on va trouver des solutions, on va s'adapter, et en fait rien de tout ça ne se passe. Donc c'est vrai que c'est assez c'est assez déprimant.
Cela fait également près d'un an qu'a été créé le collectif Unisson, qui réunit aujourd'hui plus de 300 adhérents. L'occasion pour nous de poser une petite question à Stanislas de Barbérac.
À quand des pancartes ou des banderoles Unisson?
Ouais, pourquoi pas. c'est pas trop mon truc pour être tout à fait honnête, mais pourquoi pas. Unisson, c'est une association. On n'a pas la valeur et la puissance de manifestation que peut avoir un syndicat. Voilà, nous on est là aujourd'hui par solidarité avec le milieu, mais je pense pas que ce soit la vocation première de notre association. Mais on va faire des t-shirts quand même.
Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la place de la Madeleine, en musique toujours. Et en marge du mouvement, des intermittents ont occupé le théâtre de l'Odéon pour faire part de leur colère et réclamer une prolongation de l'année blanche.
Eh bien, moi, je commanderai mon t-shirt Unisson, bien sûr. Merci beaucoup, Sophia Anastasio, pour ce reportage. Et on vous retrouve la semaine prochaine.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
La soprano Julie Fuchs, ici accompagnée par l'Orchestre National de France, Enrique Mazzola. Il faut partir, extrait, magnifique extrait de cet opéra La fille du régiment de Gaetano Donizetti. Juste avant d'accueillir notre invité ce matin, la pianiste Vanessa Wagner, eh bien je vous propose Alexandre Lagoya à la guitare avec ce Scherzino Mexicano, Manuel Ponce. Alexandre Lagoya à la guitare ici pour ce Scherzino Mexicano de Manuel Ponce sur France Musique à 8h30.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Le milieu musical est engagé depuis quelque temps déjà dans cette vaste réflexion comment mieux connecter musique et écologie, depuis la gestion des déchets à la remise en question des comportements des musiciens, en passant par la mise en place d'un système de tournée plus responsable ou par des mutations plus structurelles, insuffler une dimension écologique à son métier, affronter les dilemmes relevant de la responsabilité écologique. Bien, la pianiste Vanessa Wagner le fait déjà depuis longtemps. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
On a le grand plaisir de vous recevoir ce matin en studio sur France Musique. Vous êtes une quoi, pionnière, une militante, vous faites simplement votre part?
Oui, j'ai le sentiment de faire ma part. C'est vrai que le terme militant, je me considère pas comme telle en tout cas, parce que j'ai fait des choix de vie tout simplement depuis extrêmement longtemps maintenant. J'ai commencé à en parler et comme j'ai peut-être été un petit peu, j'en ai peut-être parlé un petit peu avant d'autres, en tout cas dans mon milieu. Donc on m'a un peu étiquetée engagée, militante, mais moi je me considère pas fondamentalement comme ça. C'est mon tempérament d'être un peu entière. Et voilà, dans ma carrière aussi, j'ai fait des choix qui sont peut-être un peu singuliers et qui ont été remarqués.
Quels choix, par exemple?
Par exemple, les choix de collaboration que j'ai pu faire, notamment, voilà, puisque je suis une des rares dans ce milieu à le faire, les collaborations avec des musiciens électroniques, comme c'était le cas avec Murkoff. Voilà, j'ai fait ces, ses choix de vie, et ensuite ça a été pris comme des étendards, ce qui n'était pas forcément mon envie au départ. Et en tout cas pour ce qui est de la cause environnementale, c'est vrai que donc moi j'ai parlé du fait que j'avais arrêté très très rapidement d'avoir une alimentation carnée, et qu'ensuite je suis devenue un peu plus extrémiste, on va dire.
Parce que vous le dites en souriant.
Oui, bah oui, parce que en fait, voilà, j'ai un peu entendu tout et n'importe quoi à ce sujet-là, mais donc voilà, j'ai parlé de cette cause végane et qui aujourd'hui est beaucoup plus écoutée, entendue et malheureusement
et
aussi
intégrée.
Intégrée bien sûr, mais on voit aussi pourquoi. C'est parce que elle est corrélée à un désastre environnemental. C'est pas uniquement comme ça m'a été dit il y a maintenant longtemps, mais c'est pas uniquement t'es Brigitte Bardot, tu défends les petits animaux, et c'est pas uniquement un truc de sensiblerie sur la cause animale qui est par ailleurs une vraie cause, puisque ça met aussi en question quand même notre éthique, notre morale, notre place dans le monde. Et à l'aune de cette crise terrible qu'on vit en ce moment sanitaire, on peut quand même aussi regarder justement quelles sont ces racines, c'est-à-dire effectivement une sorte de l'anthropocène, la place qu'on a prise dans ce monde qui est une place quand même de prédateur, quoi. Et puis donc qui c'est peut-être le moment pour nous les artistes et pour nous tous qui vivons sur cette terre de remettre changer de paradigme et remettre certaines évidences en question fondamentalement. Et c'est vraiment un sujet passionnant parce que c'est un sujet éthique, morale, c'est un sujet qui nous concerne tous, absolument tous, sans aucune distinction de race, de classe, d'âge. Et puis ça concerne surtout aussi nos enfants. Et là, ce qu'on va faire de cette génération à qui on laisse une planète abîmée.
Et c'est vrai que cette pandémie a éveillé aussi un certain nombre de consciences. J'en parle régulièrement depuis le début de l'année avec des artistes, d'autres pans de la profession aussi. Mais chez vous, Vanessa Wagner, comment est née cette conviction? À quel moment y a-t-il eu un déclic particulier?
Alors, en fait, pas vraiment. J'ai toujours, depuis mes plus lointains souvenirs, j'ai toujours eu une très forte connexion à la nature. J'étais très émue, très sensible au sort des animaux. Alors même et puis d'ailleurs au sens large des oiseaux, des insectes, des poissons. Voilà, c'était pas seulement le chat, le chien. D'ailleurs, cette distinction est aussi à remettre en question dans la grille du monde animal, de comment on considère les uns et les autres. Mais donc déjà petite fille, j'étais très très sensible à ce monde-là, très en éveil, très en sursensibilité par rapport à ça, par rapport à ce qui est de l'alimentation. J'ai toujours eu un très très gros problème à manger des êtres vivants, je dois dire. Et ensuite à l'époque, donc j'ai arrêté je suis devenue végétarienne à 18 ans, donc c'était il y a quand même un petit paquet d'années, presque 30 ans, et c'était pas du tout une mode, c'était pas du tout un truc pour faire comme je l'entends malheureusement parfois, voilà, que c'est un courant, que c'est un passage, machin. C'était pas du tout ça, et fallait être un peu accroché à ses convictions, quoi. C'était pas évident. On m'a effectivement beaucoup critiqué, beaucoup moqué, beaucoup questionné, et je vois aujourd'hui un vrai changement.
Mais parlons peut-être du secteur culturel. Alors, diriez-vous que la scène artistique est sensibilisée à cette question écologique? Est-ce qu'elle est en mouvement?
Elle est en mouvement, indéniablement. Ouais. Elle est en mouvement justement parce que aussi, on se rend compte qu'on est allé très 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 loin dans la façon dont on s'est servi du monde, dont on l'a abîmé. Donc là, on est quand même tous devant une urgence absolue. Enfin, et qu'on regarde pas d'ailleurs droit dans les yeux. Clairement, on essaye de l'éviter parce que c'est juste insupportable, en fait, de se dire mon Dieu. Et puis c'est vrai que ça donne aussi, je parlais de sursensibilité au monde que j'ai toujours eu et qui est toujours là, mais il y a des fois moi aussi j'essaye de me protéger parce que il y a ce ce concept, du, ce mot qui a été inventé par un philosophe australien qui s'appelle la solastalgie, c'est ça, et qui parle de cette espèce de mélancolie, d'éco-anxiété dans laquelle on se plonge face à ces nouvelles très, très difficiles qui nous arrivent, dont on est effectivement un peu abreuvé et que des fois on essaye d'oublier. Donc c'est une sorte de dilemme d'essayer de continuer à avancer, parce que la peur, c'est aussi quelque chose qui nous inhibe et qui peut nous empêcher d'agir, qui peut nous empêcher d'avancer tout simplement, et rester là à se dire « mon Dieu, le monde est foutu », c'est pas du tout une solution viable pour personne. Donc
chacun est amené à faire sa part.
Oui, justement. Ça, je suis fondamentalement persuadée de ça, même si c'est pas suffisant, bien entendu. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait les choix que j'ai fait, et que je me considère pas comme une militante du tout. C'est juste que, effectivement, moi, la solution que j'ai trouvée pour, on va dire, combattre ce désastre et ce mal-être, si je puis dire, c'est juste d'essayer à mon niveau, effectivement, d'être en accord avec certaines convictions, avec des lectures que j'ai qui m'ont énormément aidée pour avancer aussi dans ma réflexion, et d'être, je dirais, engagée au sens où je peux justement être sûr, malgré tout ce qu'on peut m'envoyer comme réflexion contradictoire, sûr de mes choix, et donc en accord avec ça.
Et puis peut-être de vivre avec cette sursensibilité au monde de manière un petit peu plus apaisée.
Non, mais je suis pas du tout une personne dépressive.
Ah non, mais on l'entend. On l'entend, je vous rassure. En tout cas, cette sensibilité au monde, je trouve qu'elle trouve un bel écho dans votre choix musical, Vanessa Wagner. Vous nous avez choisi, eh bien, Matthias Görner et Christoph Eschenbach, qu'on écoute ici dans un extrait de Die Schöne Müllerin de Franz Schubert.
Schneiden die Flügel sind.
Un extrait de Die Schöne Müller in der Müller und der Bach. Franz Schubert dans cette version inimitable. Hein. Mathias Gürn, Christophe Eschenbach, c'était le choix musical de notre invité ce matin, la pianiste Vanessa Wagner. Un petit mot, tout d'abord, sur ce qu'on vient d'entendre.
Ben, c'est deux interprètes merveilleux d'un des plus beaux cycles qui soit. Et en fait, j'ai choisi cet extrait parce que chez Schubert, il y a cette espèce d'intimité avec la musique, avec la nature. La nature devient une confidente à qui on peut parler. C'est un vrai personnage de ce cycle. Et je trouve que justement, c'est peut-être ce qu'on a perdu, nous, parfois, de regarder la nature comme une espèce de bien de consommation et pas comme une vraie protagoniste, si je puis dire. Et cette proximité, cette intimité-là me touche énormément.
Mais justement, quel rôle peut jouer l'artiste dans tout cela? On l'a vu, hein. Il y a, je le disais, beaucoup d'initiatives qui sont nées pendant le confinement, oui. D'autres bien avant. Aussi, je pense à l'association Arviva, que vous connaissez sans doute, plateforme d'aide et de conseil pour tout professionnel du secteur qui souhaite engager une transition écologique. Pendant le confinement, je pense, dans le domaine de la musique classique, à Cadence Rompue, musicienne engagée pour le climat, et dans le jazz et les musiques improvisées pour une écologie de la musique vivante, dont on avait aussi parler dans cette émission. Comment le musicien peut-il faire évoluer son secteur, selon vous, Vanessa Wagner?
Ben, comme je le disais tout à l'heure, je pense que on a besoin de plein de petits colibris que nous pouvons représenter. Et j'aimerais beaucoup que pour une fois, dans ce milieu de musiciens qui, par habitude, on est assez individualiste parce qu'on a toujours eu l'habitude de travailler seul, d'évoluer seul. On n'est pas très corporatiste dans le milieu de la musique, surtout de la musique classique. Et peut-être là, à l'aune de cette grosse remise en question qu'on va devoir vivre dans nos métiers, parce que cette crise sanitaire a bouleversé énormément de choses et qu'on a un signal d'alarme devant nos yeux, peut-être on va réussir à effectivement se mettre un petit peu plus en corporation pour remettre en question des habitudes. Je pensais à ça par rapport à, par exemple, ce que dit Aurélien Barraud sur ce qu'il dit de l'image qu'on a de ces gens qui partent en vacances à Dubaï, qui ont une Ferrari et qui prennent un jet et tout. Et il dit, il y a un moment, il faudrait que ça devienne ringard, ce truc-là, en fait. Et peut-être que nous, avec nos carrières, où il y a eu le mythe de l'artiste qui passe de New York à Tokyo.
Voilà, d'une ville à l'autre.
D'une ville à l'autre en une nuit, en business class, évidemment, à courir le monde, à plus de concerts possibles, etc. Ce genre de carrière, il y a peut-être un moment, on va se dire finalement, d'abord à quoi bon? Parce que je pense aussi que peut-être c'est pas obligatoirement la fin en soi d'une vie d'artiste, de courir comme ça dans une espèce de course effrénée. Et que voilà, on va peut-être reprendre un peu un rythme de où on va plus. Voilà. Évidemment, le mode de transport de nos métiers est vraiment une grosse partie de la remise en question.
Voilà, apprendre peut-être à mieux voyager, mieux gérer,
comme les déplacements. Vous le disiez au début, oui, mieux gérer les tournées. Il y a déjà pas mal d'artistes, notamment en Angleterre, par exemple, des orchestres entiers qui ont demandé à arrêter les espèces de transports fous avec des tournées qui n'ont pas de sens géographique. Et voilà, sur la gestion des déchets dans les festivals, quand je vois les orchestres où il y a des bouteilles d'eau partout qui sont à moitié entamées, enfin, tout ça fait très très mal. Les caterings, évidemment. Voilà, on pourrait faire sans obligation parce que bien sûr, tout ça est aussi une vraie question de choix personnel, mais une espèce de charte, effectivement, où il pourrait y avoir, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait des gros festivals qui s'engagent vraiment.
Et des chartes, ils sont écrits. On espère effectivement qu'il y aura de plus en plus d'interrelations entre les différents genres musicaux, les disciplines artistiques, avec chacun ses particularités, avec chacune ses responsabilités, ses particularités aussi. Vanessa Wagner, on va déjà devoir se quitter. Oui. On va écouter un extrait en avant-première que vous nous offrez ce matin de votre disque à paraître au mois de mai. Disque de musique américaine enregistré à 80 avec Willem...
Deux pianos, pardon.
Tout à fait. 80
aussi.
Willem Lachumia à vos côtés. Disque qui paraîtra chez la Dolce Volta et qu'on aura certainement encore l'occasion d'entendre sur nos ondes. Merci beaucoup Vanessa Wagner d'avoir été des nôtres. Eh bien, je suis bien d'accord avec vous, chers auditeurs, c'est beaucoup trop court. Le final de West Side Story, enfin, du moins les dernières mesures de ce final de Leonard Bernstein avec Vanessa Wagner, Willem Lachumia ici sur ce disque enregistré à deux pianos qui paraîtra très prochainement sous le label La Dolce Volta et dont je vous reparlerai, c'est promis. Il est 8h50. Bonjour Christophe Chassol.
Bonjour Saskia Deville.
Oh, quel plaisir de vous revoir en studio.
Ça fait très plaisir et puis c'est un bel enchaînement là.
Ça va être pas mal, hein. Je pense que ça va bien s'accorder avec ce qui nous attend. Dites-nous tout, quel est le menu de votre chronique du jour?
Une fois n'est pas coutume, comme on dit, c'est Copland encore, mon chéri Copland.
Ah.
Aaron Copland, facile à retenir. Aaron Copland, il est né en 1900, c'est l'homme du 20e siècle américain.
Pas mal.
Ouais, c'est pas mal, on va écouter. T'entends pas, Vanessa?
Willem Lachumia, il enregistrait.
La do do do, la sol fa ré do ré fa, la sol fa ré do ré fa. Bon, on écoute Aaron Copland, toujours. Je vous avais déjà fait écouter Billy the Kid, vous vous souvenez, Saskia?
Je me souviens très bien.
Billy the Kid, on a Rodeo, qu'est-ce qu'on a écouté d'autre? Bon, voilà, le son américain, c'était... Mon idée avec Copland, c'était que c'était ce petit gars communiste, juif et gay qui a défini le son de la symphonie américaine, quoi. D'un gros truc comme la symphonie américaine, c'est lui qui a défini ça en écrivant, vous vous souvenez, comment ça s'appelle déjà? Rue de Rennes, il avait écrit l'ouverture Open Prairie de Billy the Kid, vous vous souvenez ça? Dans une toute petite chambre de bonne. Donc voilà, il est très paradoxal et moi je l'adore. Il y a quelque chose de la pop musique dans ses accords. Donc là, on écoute une vieille chanson américaine qui est dans les Old American Songs. C'est deux séries de chansons qu'il a arrangées dans les années 50. Là, il n'y a pas les paroles. Hein. C'est des chansons revivalistes, c'est-à-dire du renouveau protestant, en gros. C'est des chansons religieuses. Enfin, celle-ci. Celle-ci s'appelle Zion's Wall. C'est les murs de Sion, quoi. Mais vous n'entendez pas Vanessa, c'est dommage.
Non, malheureusement, on n'a pas de casque pour Vanessa.
On
ne
peut pas
lui
mettre en studio. Ah, c'est dommage. Bon, je vais vous faire écouter ma version préférée, en fait, de ce morceau Zion Wall. C'est la version de Michael Tilson Thomas avec le Mormon Tabernacle Choir. Allez, on écoute. Sisters and brothers, come join us in singing the praises of Zion. C'est magnifique, non, ça, hein?
J'aime beaucoup, ouais. Effectivement.
C'est... Alors voilà, moi, je me suis demandé, enfin, j'ai vraiment essayé de comprendre ce qui me plaisait tant dans cette chanson, dans cette vieille chanson américaine. C'est... Et puis il y a beaucoup de versions, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de versions. Alors parfois, je suis pas vraiment fan de la voix, parfois c'est la vitesse ou le son. Mais en fait, j'aime tout le temps le morceau, quelque interprétation que ce soit. Et alors, ce qui reste, c'est les accords. Donc je vous ai joué vraiment la structure des accords très rapidement pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il y a dedans. C'est sur un Fa et un Sol mineur sur... Voilà, Fa majeur. Sol mineur sur Fa.
C'est vrai que ça fait très pop, hein, comme
ouais.
Ça.
Sol, Fa. Et ça fait vraiment, il y a un truc solennel en même temps, de rester sur ce Fa. Et puis, il y a quand même l'enfance qui est là de... La sol fa. Voilà, donc bon, moi c'est bon, puis aussi le 6-8 comme ça, comme une petite berceuse. On va écouter une version de Adèle Charvet que vous connaissez sans doute.
Bien évidemment.
Qui ouvre son disque Long Time Ago avec ce morceau Zion's Wall. Ok, et maintenant je voudrais vous faire écouter le pont de ce morceau qui lui en lui-même est un, enfin, de la musique moderne quoi. Voilà, je voulais jouer. Encore une fois s'il te plaît Félix. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant on l'écoute normalement avec le cœur. Vous comprenez? Bon voilà, on est dans de la pop, c'est pour ça que j'aime Copland tout le temps. Et en fait, alors Copland s'est inspiré, il a pour écrire son premier opéra, on le retrouve ce morceau en fait à la fin de son premier opéra qui s'appelle The Tenderland, et il s'est inspiré de ça pour écrire cet opéra d'un bouquin très connu aux États-Unis qui est une sorte de premier documentaire écrit qui s'appelle Let Us Praise Now Famous Men, c'est Louons maintenant les grands hommes James Hagee et Walker Evans. Vous connaissez les photos de la Grande Dépression, des familles américaines blanches, pauvres, et vous connaissez toutes ces photos, quoi. Il s'inspirait de ça, et donc dans le final de The Tenderland, qui date de 58, vous avez ce morceau Zion Wall. On écoute. J'adore ce truc. C'est solennel. Comme... Alors, Adèle Charvet me disait que c'était galvanisant, fédérateur. Enfin, il y a tout ça, mais il y a quelque chose de savoir regarder au-delà de l'horizon, au-delà du soleil couchant. On dirait la finale de l'Oiseau de Feu aussi. Moi, je sais pas, je serre le poing, je plisse les yeux et je regarde le soleil couchant et c'est une musique qui finira jamais, quoi, vous voyez.
Quand même un certain optimisme aussi.
Ouais, Bah, optimisme dans je vais ouvrir les portes du paradis et j'aurai la vie éternelle en gros. Quoi.
Exactement, ça ne finira jamais. Merci beaucoup Christophe pour cette magnifique, formidable chronique qu'on écoute sur francemusique.fr en attendant de vous retrouver la semaine prochaine.
Je pense que
ça a plu aussi à Gabriel Olivier Aguillon qui est avec nous. Bonjour Gabriel.
Absolument.
C'est non, pas
je
mal.
Vous avoue, j'ai pas trop écouté.
Non. Ouais, bravo.
J'espérais que vous ne me posiez pas la question.
Sachez que l'avenir s'annonce brillant sur France Musique. C'est aussi bien sans fin puisque la suite c'est France Musique est à vous. Dans un instant, oui, voilà, je fais la poésie de grand matin. La question du jour, je vous offrais ce disque Tango Piazzolla enregistré par Pascal Conté, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et Paul Meyer, paru chez Aparté. Quelle est la nationalité d'Astor Piazzolla?
C'est pas vrai.
Était-il belge, argentin ou haïtien?
Il y a toujours un peu de Belgique dans vos questions. Quand
je sais même pas s'il faut.
Vous n'aviez pas remarqué? Je le fais depuis la première émission du mois d'août. Hein. C'est un classique.
Et ben c'est comme la Lochifrine, il est haïtien.
Il est haïtien, exactement. Voilà. Et bien les personnes qui n'auront pas donné cette mauvaise réponse et qui auront donné la bonne, à savoir argentin, seront recontactées par email pour remporter le disque. Merci à toute l'équipe, Marie-Ferdinand, Félix Levaché, U2 Diego Aclopez et Emmanuel Rose. Merci à vous, chers auditeurs. J'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée en compagnie de Gabriel, tout de suite sur France Musique. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.
Bon week-end.
À réécouter sur francemusique.fr.